Et si tu arrivais à dealer avec ton stress chronique ou encore avec la violence avec un grand V, ce serait beaucoup plus simple, tu crois pas? Ça tombe bien parce que t'es précisément au bon endroit. On va parler de tout ça dans cette émission qui commence tout de suite. Bonjour toi qui m'écoutes, bienvenue. Je suppose que t'es en pause entre deux cours et que t'as grand besoin de te détendre. Dans ce cas, profite de ces 30 minutes qui te sont pleinement dédiées. T'es en train d'écouter Étudiant Time, l'émission qui s'adresse aux étudiants en études sup, en galère ou non, pour des tips et astuces sur ta vie d'étudiant ou étudiante. Moi, c'est Myria, je passe mon temps à me renseigner sur des tas de trucs et je me suis dit que ça pouvait être chouette de te les partager ici. Je suis comme d'habitude accompagnée de ma chroniqueuse Marine. Coucou Marine.
Coucou.
Marine qui est étudiante en journalisme à l'Université catholique de l'Ouest. Ah, on recevra notre invité du jour, Victorien.
Coucou.
Salut Myria.
Coach carrière, certifié en coaching cognitif, il va nous parler recherche d'emploi, confiance et montée en compétences. Spoiler, c'est passionnant. On enchaîne avec l'astuce étudiante de Marine pour apprendre à gérer ton stress au quotidien. Et on terminera par une question qui pique. Pourquoi sommes-nous violents? Ce sera dans la chronique santé mentale. T'as coupé le fil, t'as compris le deal. Tout est plus facile quand on devient fou.
Le journal.
Bonsoir Simon.
Bonsoir à tous, bonsoir Fahadi. Tout de suite votre sommaire de ce vendredi 2 mai. Un meilleur apprenti boucher de France à Juigné-sur-Loire, des vélos chargeurs de batterie pour les lycéens et un derby sous haute tension en football pour les Angevins.
Fierté du Maine-et-Loire, Benjamin Saurin, 19 ans, sacré meilleur apprenti boucher de France.
Gros plan sur un jeune talent du Maine-et-Loire, Benjamin Saurin, 19 ans, vient d'être sacré l'un des meilleurs apprentis bouchers de France lundi 28 avril. Formé à la boucherie des Bords de Loire à Juigné-sur-Loire, aux côtés de Jean-Charles Beunier, élu meilleur ouvrier de France en 2023, Benjamin a brillé lors de la 47e édition de la grande finale nationale à Barbezieux, en Charente. Devant un jury d'élite composé de professionnels et de meilleurs ouvriers de France, il s'est illustré dans toutes les épreuves techniques du concours, des ossages, des coupes, ficelles, et même présentation artistique. Une performance de haute volée saluée unanimement. Benjamin Saurin incarne une nouvelle génération d'artisans passionnés. Ce titre récompense non seulement son travail acharné, mais aussi l'importance de l'apprentissage dans les métiers de l'artisanat. Aujourd'hui, la filière de la boucherie forme plus de 10 000 apprentis en France chaque année et démontre qu'elle a de l'avenir et de la passion à revendre.
Fini les prises murales, à Cholet, des lycéens relèvent le défi de produire leur propre énergie grâce à des vélos rechargeurs.
On ne va pas parler de course cycliste, mais bien d'une alternative aux prises électriques. Au lycée La Providence, à Cholet, deux vélos chargeurs ont été mis à disposition des élèves. Une initiative des éco-délégués que la direction de l'établissement salue comme écologique, ludique et citoyenne. Ces vélos, munis de ports USB et USB-C, peuvent recharger téléphone, tablette ou ordinateur. À l'intérieur, un convertisseur d'énergie transforme l'effort physique en électricité. Pour 10 minutes de pédalage, les utilisateurs gagneront 20% de batterie sur leur appareil. Le lycée a également lancé un défi à ses élèves afin d'encourager l'usage de cette nouvelle acquisition. L'objectif est de produire un maximum d'énergie sur une semaine. Un challenge qui devrait renforcer un peu plus l'engagement écologique des lycéens tout en préservant la batterie de leur téléphone.
En football, dans la lutte pour le maintien, les Angevins sous pression avant d'affronter Nantes dimanche.
C'est un match importantissime qui attend les Angevins. Le SCO d'Angers se déplace chez son voisin le FC Nantes dimanche à 15h dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Un derby sous haute tension car les Nantais, 14e, peuvent quasiment assurer leur maintien en cas de victoire. Le SCO, 15e, est en quête de points et voit ses concurrents directs se rapprocher dangereusement. Les Noirs et Blancs ne comptent plus que 2 points d'avance sur Le Havre, barragiste, et 3 points sur Saint-Étienne. Avant-dernier, un enjeu que la préfecture de Loire-Atlantique a pris très au sérieux puisqu'elle a publié un arrêté. Dimanche, plus de 1400 supporters angevins se déplaceront au stade de la Beaujoire, escortés par les forces de l'ordre.
L'émission pour parler carrière avec notre invité du jour.
Salut Myria.
Aujourd'hui, on va parler orientation, recherche de job, évolution professionnelle et surtout de comment survivre à un marché du travail de plus en plus flou quand on est jeune diplômé. Pour ça, j'ai le plaisir d'accueillir Victorien, coach carrière depuis 6 ans, certifié en coaching cognitif et avec un parcours bien rempli en RH, recrutement et accompagnement. Bienvenue. Avant de parler coaching, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en quelques mots? Comment t'en es venu à ce métier?
Je suis arrivé dans le coaching, je dirais, presque par évidence. J'avais fait une licence en sciences humaines, j'ai fait un master en RH, en gestion de projet et innovation aussi. Ce qui était vraiment important pour moi, c'était de comprendre l'humain, et c'est pour ça que j'étais allé vers les sciences humaines, et très naturellement, comprendre l'humain dans le domaine professionnel et l'accompagner, eh bien, c'était inévitablement du coaching.
Et qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta façon de coacher aujourd'hui, puisque tu as aussi une formation en sociologie, en gestion de projet ?
Je dirais que les sciences humaines, c'est très utile parce que ça donne des vrais repères sur les mécaniques humaines qu'il y a dans les entreprises. Et sur la partie gestion de projet, bon, évidemment, c'est donner de la structure, de la méthode, avoir un vrai point d'appui pour tout simplement construire un accompagnement qui soit vraiment, vraiment adapté et pas simplement collé à un framework tout fait préconstruit, quoi.
D'après une enquête de l'APEC, près d'un jeune diplômé sur deux met plus de 6 mois à trouver un premier emploi stable après ses études. Toi, qui accompagnes des managers, des dirigeants, mais aussi des étudiants ou étudiantes ou des personnes en reconversion, qu'est-ce que tu observes sur le terrain en ce moment, surtout pour celles et ceux qui cherchent leur premier job ou un job étudiant ?
Ce que j'observe, c'est qu'il y a une méconnaissance profonde du marché du travail, une méconnaissance profonde aussi des usages, des codes à maîtriser pour les entretiens. Et je pense que c'est très c'est quelque chose qui pèse énormément. Il y a un décalage presque invisible dont tout le monde parle, mais où finalement aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui arrivent sur le marché en fait ne comprennent pas. Manque de visibilité énorme.
Tu parles d'une vraie méconnaissance du marché, presque d'un choc. C'est à ce point-là. Est-ce que tu dirais que c'est générationnel ou plutôt structurel ?
Je pense qu'il y a une partie structurelle qui est liée, je dirais, au fonctionnement global, tout simplement, sortie de formation, etc. Et puis avec le passage pour aller vers les entreprises. Et puis également, je dirais aussi générationnel parce que, de toute évidence, c'est des générations qui sont différentes. Et donc forcément, il peut y avoir du choc.
On vous ramène d'ailleurs à la dernière émission, on a parlé de la Gen Z dans le milieu du travail, c'était très intéressant. Un autre sujet qui intéresse beaucoup de monde, c'est le CV. Une étude américaine montre que les recruteurs passent en moyenne 40 secondes à lire un CV et pourtant, on passe parfois des heures à les faire. Victorien, tu dis souvent que le CV, c'est un vendeur silencieux. Est-ce que tu peux nous expliquer ?
Oui, tout à fait. En réalité, quand on pense au CV, en fait, on se dit « Tiens, il faut que je cherche un poste, je vais faire un CV et puis ça y est, on va m'appeler. » Ça, c'est la logique de base. La réalité, c'est que le CV, c'est... La première chose qu'on va voir de vous, c'est ce qui va faire qu'on va vous appeler ou qu'on ne va pas vous appeler. Donc, le CV, pourquoi c'est un vendeur silencieux ? Si on revient il y a 100 ans en arrière, il n'y avait pas du tout autant de packaging sur tous les produits. Aujourd'hui, il y en a énormément. Pourquoi ? Parce qu'avant, on avait beaucoup de vendeurs. Aujourd'hui, on n'en a plus. Donc, en fait, on a remplacé les vendeurs par du packaging. Et aujourd'hui, si vous ne pouvez pas directement rencontrer l'entreprise pour leur faire part de qui vous êtes, d'où vous venez et vos compétences, inévitablement, c'est le CV qui fait à votre place. C'est lui qui va vous vendre et qui va vous faire décrocher l'appel.
Entre Canva, Word, LinkedIn, on s'y perd un peu franchement. Est-ce qu'il y a une règle d'or à suivre, surtout quand on n'a pas d'expérience ?
Pour faire son CV, hein ?
Oui.
Pour faire son CV, une règle d'or, je dirais être clair et surtout se poser la question qu'est-ce que veulent les personnes à qui vous envoyez votre CV ? C'est la seule question à se poser. Si vous arrivez à y répondre, vous allez trouver toutes les autres réponses à toutes les autres questions que vous posez.
Et la fameuse lettre de motivation, du coup, est-ce qu'on la zappe ou est-ce qu'elle reste utile ?
Eh bien, c'est très surprenant parce qu'en réalité, la lettre de motivation, quand on regarde les stats, je parle de l'APEC, la lettre de motivation reste très lue. Donc, ça, en réalité, c'est très propre au domaine et au secteur d'activité. Parfois, elle est très lue, parfois très peu, parfois juste dans certaines situations. Voilà. Donc au global, faites-la quand même.
Ensuite, imaginons qu'on soit recontacté grâce à tes super conseils. C'est l'heure de l'entretien d'embauche. Dans un sondage de l'IFOP, 72% des jeunes disent ressentir du stress ou un sentiment d'imposture à un entretien. Tu compares ça à un date ? On veut faire une bonne impression sans en faire trop. Quels sont les grands pièges à éviter ?
Les grands pièges à éviter, je dirais... surtout se préparer. Et en réalité, souvent, quand on se dit « Tiens, il faut que je prépare mon entretien », on va se poser 2-3 questions en se disant « Tiens, mais voilà, je vais juste me présenter comme ci, comme ça, et puis je vais raconter ceci, cela, et voilà. » En fait, un bon entretien, c'est un entretien où vous facilitez tout le job de votre interlocuteur. Donc, en réalité, dites-vous une chose, toute la préparation que vous faites en amont, c'est du job en moins que vous donnez au recruteur pour l'aider à comprendre ce qu'il veut. Et donc vous lui facilitez le boulot, donc ça veut dire que sur le temps que vous avez imparti avec lui, vous lui communiquez plus d'informations, et donc là ça veut dire que inévitablement la valeur perçue de votre profil, elle est très 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 largement supérieure à quelqu'un qui s'est pas préparé ou à l'arrache.
Tu parles aussi beaucoup de préparation mentale dans ton travail. Pourquoi c'est aussi important que le CV selon toi ?
La préparation mentale, il faut se dire, votre CV, donc c'est votre vendeur silencieux. Donc ça, c'est bien, ça peut vous permettre de décrocher un appel, des rendez-vous. Mais si derrière, vous n'êtes pas en capacité de pouvoir dérouler pour être convaincant pendant les process, eh bien, de toute évidence, c'est ça qui va jouer contre vous. Et donc, il y a certains profils comme ça, c'est extrêmement surprenant, ils décrochent plein de rendez-vous, mais ils convertissent zéro. Donc, la préparation mentale, elle permet de se projeter sur « oui, j'ai les compétences, oui, je sais faire, oui, je sais quel mot utiliser, et oui, je suis à l'aise, et oui, j'ai déjà des très bons repères sur les codes de l'entreprise et évidemment du poste pour lequel je postule. »
Tu travailles aussi sur une appli, un peu comme Duolingo, mais pour le coaching pro. C'est vachement malin, surtout quand on sait que 9 jeunes sur 10 utilisent leur téléphone pour chercher un job ou s'informer sur les entreprises. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Oui, bien sûr. Donc cette appli, elle s'appelle Coach Victorien AI. Donc je me suis posé une question très simple. Comment mettre toute mon expertise dans un outil pour faire gagner un max de temps et d'énergie à beaucoup de personnes ? Et donc tout naturellement, ça a découlé de cette réflexion. En fait, je dirais qu'il y a deux axes sur cet outil. Premièrement, c'est déjà vraiment se positionner sur le marché. C'est la base, c'est dire qui je suis, d'où je viens, quel poste je peux viser, combien de temps ça va me prendre, etc., etc. Donc c'est vraiment une partie très opérationnelle, bien comprendre le marché, c'est les lettres de motivation. Il y a même un calendrier pour vos stratégies de contenu LinkedIn pour être attiré par les recruteurs. Enfin, pour attirer les recruteurs. Et ensuite, vous avez... Oui, parce que si vous voulez être attiré par le recruteur, vous pouvez...
C'est excellent.
Il y a
dans la boîte.
Il y a énormément de beaux et de belles recruteurs.
Oula, on s'agit.
Donc, pour revenir au sujet, donc, c'est vraiment avoir ce côté très opérationnel et en même temps un côté très cognitif, très psychologique, où vous allez être challengé sur « ok, mais ça m'embête, ça je veux pas le faire, ça je suis pas à l'aise, etc. » Et où là, il y a vraiment un accompagnement poussé, puisque c'est sur la base d'un fonctionnement cognitif et donc scientifique pour évoluer et briser justement ses croyances dans sa recherche. C'était un peu long, mais j'ai juste
essayé de faire. C'est très intéressant. Et même sans coach, avec juste un smartphone, on peut déjà progresser sur son mindset ?
Totalement, totalement. C'est la promesse de Coach Victorien AI. Et en tout cas, d'après mon expérience, oui. Donc, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas.
C'est tout pourri. Non, vraiment, ça a l'air chouette. Pour finir, si tu devais donner un seul conseil aux étudiants ou étudiantes qui nous écoutent et qui sont paumés dans leur orientation ou à la recherche d'un job, ce serait quoi ?
Qu'est-ce que vous adorez ? Qu'est-ce que vous détestez ? Partez de ça et essayez de dérouler autour. Et normalement, ça devrait vous mener à là où vous devez être.
Merci beaucoup, Victorien, d'avoir partagé tout ça avec nous. On peut te retrouver sur LinkedIn sous le nom Victorien AM et on mettra le lien vers ton appli à venir dans la description. Et vous, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette galère et vous avez le droit d'apprendre à chercher. Et maintenant, petite pause musicale bien méritée avec un titre qui revient en force sur TikTok. Voici Backstabber de Kesha. Basement all alone, 'cause your little conversations got around. And look at what we all found out.
Look at what we found.
Look here, we all found out that you have got a set of loose lips twisting stories all because you're jealous now. I know exactly what you're all about.
What you're all about.
This is what you're all about.
So tight, so maybe you should shut your mouth.
Shut your mouth.
You never shut your mouth. Honestly, I think it's kind of funny that you waste your breath talking about me. Got me feeling kind of special.
Especially.
This is what you're all about.
Yeah. On vient d'écouter Backstabber de Kesha, un morceau qui a marqué notre génération en 2010 et qui a refait surface récemment. Kesha retourne la violence sur celle qu'il a manipulée et c'est là qu'on voit que la violence n'est jamais toute blanche ou noire. Même ceux qui sont victimes peuvent, à un moment donné, répondre de manière violente comme une façon de reprendre le contrôle et on en reparlera tout à l'heure. Bon retour parmi nous sur Radio G, vous écoutez Étudiant Time. Marine, ce sujet-là, le conflit, ça me stresse. Et je suis sûre que je ne suis pas la seule. Hein. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous, les gros stressés de la vie ?
Mais bien sûr, je suis toujours là. Salut la team étudiant et étudiante. On se retrouve aujourd'hui dans les astuces de la semaine pour parler ensemble de conseils pour gérer son stress, parce que Myria a l'air vraiment stressée.
À l'aide.
Et pour parler aussi bien-être, qu'il soit mental ou bien émotionnel. Et oui, en tant que jeune étudiant, il peut arriver de ne pas se sentir au max de sa forme. Et comme diraient les influenceurs, c'est OK. Parce que oui, toujours avoir le smile, ce n'est pas évident. Et ne t'en fais pas, c'est normal d'avoir des coups de mou. Ça fait partie de la vie. Entre le stress des cours et surtout actuellement cette période de partiel, bon, même si certains sont chanceux et sont déjà en grandes vacances. Bon, je disais, entre le stress des cours, du boulot, de toutes les petites échéances pardon, que tu peux avoir, des conflits entre amis ou en famille, eh bien oui, tes émotions deviennent de vraies montagnes russes. Et si je peux te faire une petite confidence, moi aussi, ça m'arrive. Alors t'inquiète, t'es pas seule, et d'autant plus que je suis ici pour te dévoiler trois petits conseils qui pourraient vraiment t'aider à remonter la pente lorsque tu n'es pas au top.
Et c'est OK.
Il a compris le tempo.
Bon, le Victorien, il sait tout.
Alors, installe-toi et écoute-moi. En tant qu'étudiant et en tant qu'être normal, finalement, il est important de garder du temps pour soi et de faire des coupures pour tout simplement souffler. Alors, première astuce, je te conseille d'organiser des activités régulières avec tes amis et ou ta famille. Premièrement, bah, parce que c'est cool. Et ensuite, surtout parce que le fait de planifier des activités sociales, comme aller au cinéma, faire des sorties bowling, aller boire un verre ou simplement faire des jeux de société dans une bonne ambiance, te donnera davantage de motivation pour te remettre ensuite au travail. Si tu ajoutes à ça, à ton planning une fois par semaine, par exemple, tu verras que ça te permettra de maintenir un équilibre entre les études et les loisirs, et en plus, ça réduira ton stress et ça renforcera les liens que tu as avec tes proches. Et n'oublie pas, bien sûr, que tes proches sont des épaules sur lesquelles tu peux te reposer et des oreilles qui peuvent également t'écouter dans les mauvais moments. Alors, franchement, qu'est-ce que t'attends ? Et maintenant, je vais te parler de pratiquer la méditation de pleine conscience. Est-ce que tu connais ? Pas forcément, je suis là. Alors, tu te demandes sûrement ce que c'est, hein, comme je viens de te le dire, mais ça tombe bien. Je vais te l'expliquer. Il s'agit d'un moment calme durant lequel tu te poses et te concentres sur ta respiration pendant 5 à 10 minutes. tu peux faire cela chaque jour ou plusieurs fois dans la semaine lorsque tu en ressens le besoin. Il suffit de fermer les yeux et de te concentrer uniquement sur tes respirations et tes expirations. Cela te permettra de réduire ton stress et ta fatigue mentale et ça favorisera également la gestion de tes émotions. Attention, le but n'étant pas non plus de se vider l'esprit, mais bien de revenir sur le moment présent afin d'apaiser les tensions que tu ressens. C'est marrant parce que comme ça, franchement, ça paraît un peu perché. Et là, j'ai d'ailleurs carrément l'impression de me prendre pour une sophrologue, mais je t'assure que vraiment, ça aide.
Et c'est OK.
Et je pose ça là, mais moi qui me suis mise au Pilates récemment, c'est aussi une manière de prendre du temps pour soi à travers des exercices d'abdos et de respiration profonde. Et franchement, c'est top. Alors vas-y, fonce. Bon, le temps passe. Je te donne alors maintenant la troisième astuce pour réduire ton anxiété et favoriser ton bien-être. te conseille donc de te créer un petit carnet pour écrire chaque jour des choses pour lesquelles tu es content, satisfait et même reconnaissant. En gros, là, tu peux y aller, hein. Tu peux te mettre en avant, personne ne lira ce que tu auras écrit. Mais tout de même, attention à tes chevilles quand même. Hein. Cette méthode te permettra donc d'améliorer ton humeur et de te recentrer sur des aspects positifs de la vie. L'idée, tu l'as compris, c'est que tu puisses, dans des moments difficiles, relire ces notes. Et à l'inverse aussi, ça fonctionne, hein, lorsque ça ne va pas ou que tu souhaites en parler, eh bien tu peux juste écrire pour te libérer un peu. Donc tu verras au fil des jours, hein, plus tu prends l'habitude de remarquer les choses positives, même toutes petites, eh bien plus ton cerveau va naturellement les repérer.
D'ailleurs, ça, c'est un processus cognitif. Et ça fait partie des types d'exercices qu'on pourrait donner en coaching cognitif.
Tiens donc. Ah bah, t'as vu ça? C'est un vrai entraînement mental, hein, donc. Hein. Et un peu comme aller à la salle, mais pas pour son physique, mais plutôt pour son moral. Puis soyons honnêtes, hein, certains jours, tu n'auras pas envie d'écrire. Bah, c'est pas grave. C'est OK. L'important, c'est la régularité et pas la perfection. Même une ligne, un mot, un smiley, oui, franchement, ça compte. Et ça y est, c'est donc la fin des astuces étudiantes. J'espère qu'elles te seront utiles. Tu as maintenant de quoi prendre soin de toi. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez retrouver toutes ces astuces sur le site radio-g.fr à la rubrique Étudiant Time.
Merci Marine. Avant de clôturer cette émission, laisse-moi te parler de psychologie de la violence dans la chronique santé mentale du jour. Pourquoi sommes-nous violents ? On parle souvent de la violence comme d'un fléau, un comportement inacceptable, presque inhumain. Mais la vérité, c'est que la violence fait partie de l'humain. Alors pourquoi est-ce qu'on peut tous, un jour ou l'autre, y céder ? D'abord, il faut comprendre que la violence n'est pas toujours préméditée. Elle peut être une réaction impulsive, un trop-plein, une manière, certes mal adaptée, de reprendre un contrôle qu'on croit avoir perdu. C'est ce que décrit Daniel Chester dans Nature Human Behavior. Il montre que lorsqu'on se sent humilié ou rejeté, notre cerveau réagit comme s'il avait mal physiquement. Et dans ces moments-là, l'envie de rendre l'appareil peut devenir très forte. Ce n'est pas une excuse, mais c'est un éclairage important. On croit souvent que les agresseurs sont des monstres et les victimes des anges, mais la réalité est plus complexe. Parfois, les rôles se mélangent et parfois, les deux personnes ont souffert. Boris Cyrulnik, dans son livre « 40 voleurs en carence affective », parle de la violence comme d'une réponse à un manque. Manque d'amour, de reconnaissance ou tout simplement de mots. Et Marie-France Hirogoyen, dans « Le harcèlement moral », rappelle que la violence psychologique s'installe souvent dans une relation. Elle ne vient pas toujours de nulle part. Mais attention, reconnaître des zones grises, ce n'est pas tout relativiser. Aujourd'hui, on écoute enfin les victimes, et c'est essentiel. Leur parole a trop longtemps été ignorée. Mais dans cette volonté de mieux les entendre, on en arrive parfois à des discours binaires. Celui qui souffre est forcément du bon côté, et celui qui blesse, forcément du mauvais. Or, la réalité est rarement aussi simple. Le contexte compte, le stress, les traumas passés, la précarité. Et puis, il y a les substances. L'alcool, notamment, joue un rôle énorme. Dans The Lancet Psychiatry, Hens, du coup la marque de bière, et ses collègues montrent qu'il abaisse nos inhibitions, déforme notre perception et augmente clairement le risque de violence. On entend mal, on comprend mal, on réagit trop vite. Alors que faire quand on sent la colère monter ? Quand quelqu'un nous insulte, nous provoque, nous pousse à bout ? Quand on est seul, on peut écrire, respirer, s'éloigner. Mais en plein conflit, en soirée par exemple, avec de l'alcool et de l'ego dans l'air, c'est plus difficile. Le premier réflexe à avoir, c'est de créer de la distance. Sortir, détourner le regard, ne pas répondre à chaud. Ce n'est pas fuir, c'est désamorcer. C'est une force. Et si malgré tout, on a blessé ou été blessé, alors il faut en parler, chercher à comprendre, à réparer. Parce que la violence, ça s'apprend. Mais surtout, ça se désapprend. Une revue publiée sur PubMed, intitulée « Biological Mechanism of Aggression », montre qu'on peut réguler cette impulsion par l'écoute, l'éducation émotionnelle, le soin. Parfois, on est la victime, parfois, on blesse sans le vouloir, souvent, on est un peu des deux. Et c'est en acceptant cette zone grise, cette part d'humain, qu'on peut vraiment comprendre la violence et apprendre à ne plus y céder. Victorien, Marine, merci à tous. Comment vous vous sentez après cette petite demi-heure d'Étudiant Time ?
Je me sens trop stressée. Non, je... Ta fille a fait une chronique, ça ne fonctionne même pas.
C'est pas grave, il y a coach Victorien qui est avec nous si jamais.
Et oui, j'ai vu un petit lien, moi, entre les deux approches, de dire le fait d'écrire quelque chose et le rapport à la violence. Ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc si vous n'exprimez pas ce que vous avez, ça va s'imprimer dans votre comportement, ça va transparaître et ça risque d'exploser à un moment. D'où le fait de le ressortir d'une façon ou d'une autre, soit dans les échanges ou même juste à l'écrit ou avec de l'art, peu importe. Mais en fait, c'est ce qui permet aussi de laisser passer les choses et potentiellement de sentir mieux et même peut-être d'être moins violent.
C'était le philosophe Victorien.
En résumé, aujourd'hui, on a parlé des possibilités de formation post-bac dans le Focus étudiant. On a reçu Victorien, du coup, coach carrière dans le studio pour discuter recherche d'emploi et évolution professionnelle. On a donné quelques tips pour gérer son stress dans l'astuce étudiante et on a conclu l'émission en répondant à la question « Pourquoi sommes-nous violents dans la chronique santé mentale ?» Tu peux retrouver la rediffusion de l'émission sur radio-g.fr dans la rubrique Étudiante Time. J'espère que ça t'aura intéressé autant que nous. Étudiante Time, c'est à 13h un mardi sur deux. Bon courage pour les révisions, pour la recherche de taf et à très bientôt. Vous êtes bien sur Radio G. Thank you.